RCF.
Monseigneur Maalouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable à l'Institut catholique de Paris de la théologie patristique. Vous pratiquez également cette spécialité à l'Institut chrétien d'Orient. Et vous êtes rattaché au rite grec melkite catholique qui dépend du patriarche d'Antioche. Et avec vous, on continue ce parcours au sein de l'Avent avec comme thème la conversion. Alors, on a évoqué la conversion personnelle. On va aussi évoquer aujourd'hui la conversion de l'Église et de l'Église en interne. C'est une conversion qui a été évoquée récemment et qui est encore évoquée concernant les comportements d'abus sexuels dans l'Église. Là aussi, est-ce que ce qui est demandé au fond à l'Église, c'est non seulement de traiter ce qui se passe, mais aussi de revenir au cœur de la foi qui la constitue?
Cette invitation à travers ce rapport sauvé à l'Église est une invitation justement à revenir au centre de la foi. La conversion, la métanoïa, le changement de vie, dans l'Antiquité et même aujourd'hui, c'est de passer d'une école à une autre, d'une religion à une autre. Donc dans le christianisme, la littérature patristique des premiers siècles parlait souvent de cette conversion qui était accomplie intellectuellement, spirituellement, mais on se convertit à la personne du Christ et donc on ne se convertit pas à l'Église. Cela veut dire que la conversion est un cheminement vers le Christ.
L'Église... Cela veut dire qu'il faut se désolidariser de l'Église?
Non, je ne dis pas cela parce que l'Église est à la fois, comme nous l'enseigne Vatican II, est à la fois divine et humaine. Divine, ce n'est pas que l'Église est divine, c'est que sa tête, le Christ, est divin. Mais elle est humaine. Et malheureusement, que ce soit dans nos prédications, nous, comme prêtres, évêques, etc., ou les fidèles, et même en dehors de l'Église, ceux qui nous regardent de l'extérieur, ils ne retiennent de l'Église que son aspect humain. Et à mon avis, ici, il y a quelque chose qui va à l'encontre de notre vocation et de notre être comme chrétien.
Qu'est-ce que vous voulez dire précisément?
Je voulais dire que l'Église est d'abord humaine et donc fragile. On parlait tout à l'heure de ce Dieu qui devient fragile. Eh bien, l'Église est fragile. L'Église est formée de vous et moi. L'Église, ce n'est pas la pierre, ce n'est pas la beauté d'une cathédrale, bien que ce soit évidemment aussi un élément de ce cheminement spirituel, puisque nous ne sommes pas des êtres désincarnés, mais l'Église est humaine. Et elle doit, dans tout ce qu'elle dit et ce qu'elle prêche, prendre compte de sa fragilité. Et aujourd'hui, nous sommes conscients, en plein dedans, conscients que nous sommes fragiles. Évidemment, si je dis cela, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui s'est passé avec les abus sexuels, c'est de la fragilité normale. Non, pas du tout. Évidemment, là, il y a un crime. Et ce n'est pas du tout uniquement un péché. Je distingue donc entre un péché et un crime, et parfois le péché est un crime. Et donc l'Église doit tenir compte de cela, doit donner l'exemple à toute l'humanité, qu'elle soit croyante ou non, qu'elle est un être et qu'elle est formée par des humains et donc fragile.
Mais comment est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut comprendre le credo quand il dit « je crois en l'Église une sainte catholique
l'Église,
et apostolique »
L'Église est sainte, encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle est formée par des humains saints, parce qu'elle est sainte par sa vocation et son être lui-même qui est fondé par le Christ. J'invite tous nos auditeurs à réaliser un discernement, une distinction entre l'aspect humain et l'aspect divin de l'Église. L'Église toute seule, même le pape et les évêques et les patriarches et les prêtres et les diacres, même les fidèles, ne sont pas des saints. Nous sommes appelés à la sainteté et c'est différent. Et donc nous sommes appelés à la conversion puisqu'il n'y a pas de sainteté sans conversion. Et donc toute l'Église est appelée à ce cheminement perpétuel et j'allais dire, comme disait Grégoire de Nice dans une de ses homélies, de commencement en commencement, qui n'ont jamais de fin. Donc la conversion est un renouvellement tous les jours de notre vie.
Et quelle forme ça peut prendre pour l'Église, justement ? Comment est-ce que, au-delà des réparations pour ces victimes d'abus sexuels, l'Église peut vivre une conversion ?
L'Église doit vivre la conversion sur tous les niveaux, pas seulement sur le plan sexuel. Par exemple, le pape nous invite à réfléchir sur la synodalité.
Comment l'Église... C'est une forme de conversion.
Bien sûr, de notre façon de vivre l'Église. L'Église, ce n'est pas uniquement une institution. Et c'est ça peut-être ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui, à renouveler notre vision. Et je pense que le monde nous attend à renouveler cette vision. L'Église n'est pas uniquement une institution comme les autres. L'Église est d'abord, je dirais, un mystère.
Est-ce Là qu'on aussi, oublie justement que l'Église n'est pas une institution comme
C'est ce qu'on a oublié pendant des autres. Siècles, me semble-t-il. Et c'est pour cela qu'on paye tout cela aujourd'hui. Parce qu'on a réduit l'Église à une institution. Alors que l'Église dépasse les institutions. Bien qu'elle ait cette forme, bien sûr. Mais quand on réduit l'Évangile, l'Église et la foi chrétienne à un ensemble d'institutions et de droits et de lois, eh bien, on déforme l'Église, on déforme l'Évangile et on déforme la foi chrétienne.
On a oublié qu'elle était vivante, l'Église.
On l'a oublié parce que justement, on a vécu uniquement peut-être et on a été focalisé sur cet aspect-là, qui est un des aspects, n'est pas le seul, n'est pas l'unique.
Et cette conversion, elle vient de ses membres, elle vient du chrétien qui peut interagir, qui est membre de cette Église à part entière.
Exactement. Quand je parle et quand nous parlons de la conversion, ce n'est pas uniquement je m'adresse ou vous vous adressez au pape et aux évêques, ou aux prêtres, aux diacres. C'est tout le peuple baptisé, et même les catéchumènes qui se préparent au baptême, ils sont appelés à cette conversion. Et c'est là le témoignage que nous pouvons donner au monde entier, à toute l'humanité à travers les siècles. C'est le fait de vivre le Christ et le fait de le vivre dans une tension, dans une dynamique mystique. Et cela est très important pour l'Église aujourd'hui de se rappeler qu'elle est d'abord un lieu mystique. Quand je dis mystique, je ne dis pas ésotérique parce que ce terme est malheureusement galvaudé, mais ça veut dire que c'est un lieu où je peux cheminer spirituellement. Et qui dit cheminer spirituellement, je peux tomber et je peux me relever, je peux me redresser. C'est là aussi une conversion. Et donc, l'Église est une mystique, la foi chrétienne est une mystique. Et si on réduit cette mystique à un ensemble de lois et de règles, on réduit la foi chrétienne et on déforme le message du Christ.
Mais justement, si on revient à l'Église des premiers temps et même peut-être simplement à la première communauté, qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue justement par rapport à ce que Jésus a constitué au tout début avec ses 12 apôtres?
Jésus a constitué cette communauté chrétienne, cette ecclésia, n'est-ce pas, cette assemblée. Et on connaît tous qu'un des apôtres qui a vécu, qui a entendu le message de Christ, qui a accompagné le Christ, l'a livré. Je parle de Judas. Un des 12. Vous voyez, donc c'est une petite communauté quand même, qui vient de naître, à plus forte raison quand on devient des millions et des millions. Donc il va y avoir toujours des pécheurs. Et c'est pour cela, dans l'Église, on commence l'Eucharistie par reconnaître notre péché. Ce n'est pas une façon, voyez, esthétique de dire les choses, c'est une réalité.
C'est notre réalité. La trahison est dans l'Église.
La trahison est dans l'Église. Mais c'est là aussi où l'Église est appelée à la conversion, c'est que Dieu donne son pardon. C'est là une réalité qu'on oublie souvent, que même si nous sommes pécheurs, que nous soyons des évêques ou des prêtres ou des fidèles, nous sommes pécheurs, mais nous sommes appelés, nous avons cette, je dirais, cette chance renouvelée de vivre le pardon. Dieu nous pardonne, nous accepte tels que nous sommes. Et c'est là où je trouve que le Christ reste quelqu'un de génie, si je puis dire, même sur le plan humain, c'est que si on revient à la Bible, à l'Évangile, aux rencontres qu'il a faites avec beaucoup de femmes ou d'hommes, tous presque étaient des pécheurs. La femme adultère, Nicodème, tous. Ils cherchaient ce salut, cette connaissance, cette voie mystique. Et à travers la conversion, ils l'ont trouvé en lui-même. Jésus est la vie. Et donc, Jésus est venu pour tous les pécheurs, pour les malades. Et il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour ceux qui se prennent pour des hommes saints. Je suis venu pour les malades. L'Église doit incarner cet appel d'abord dans son comportement. Quand je dis l'Église, je désigne tous les chrétiens baptisés. Et donc, tous les chrétiens baptisés sont appelés à vivre cette dimension et à la partager avec les autres.
Et alors, très rapidement, l'attitude de Jésus et des apôtres avec Judas. Est-ce qu'on peut s'en inspirer?
Bon, après, il y a eu beaucoup d'interprétations de la trahison de Judas à travers les siècles dans l'histoire du christianisme. Et ce qui est évidemment à retenir, c'est la phrase de Jésus sur la croix, qui me semble n'est pas uniquement adressée à ceux qui l'ont crucifié, mais même à Judas. Quand il nous dit, et quand il s'adresse sur la croix à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. C'est là le message par excellence, et je dis, c'est là où le Christ a vécu pleinement ce qu'il a prêché, et ce à quoi il nous invite, donc à un pardon illimité, même dans l'injustice et dans la persécution. Nous sommes appelés à vivre comme Jésus, donc ce pardon illimité et infini.
Merci Monseigneur Mahalouf. Je rappelle que vous êtes rattaché au rite grec melkite catholique qui dépend du patriarche d'Antioche et vous êtes donc libanais.